France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2007, la comédienne Dominique Blanc tirait de sa bibliothèque Le Dieu des petits riens pour nous en lire un extrait. Paru en 1997, le premier roman de l'indienne Arundhati Roy fut traduit en 30 langues et connut un succès planétaire. L'action se déroule dans la province du Kerala, à Ayyemenem, où Arundhati Roy a elle-même grandi, avant de partir à Delhi pour étudier l'architecture. Elle écrira d'abord pour le cinéma, avant de plonger dans l'écriture du Dieu des petits riens. S'il m'a fallu 4 ans et demi pour écrire ce roman, explique-t-elle, c'est parce que j'ai toujours pensé qu'en littérature, la forme est aussi importante que le fond. J'ai passé des mois entiers à mettre en place cette architecture complexe, cohérente, à organiser les va-et-vient incessants entre le temps du récit et celui de sa narration. Je tenais à ce que chaque événement, aussi insignifiant qu'il soit, soit réfracté par le prisme du passé et de l'avenir. La bibliothèque de Dominique Blanc, Arundhati Roy, Le Dieu des petits riens.
La bibliothèque de Dominique Blanc. Aujourd'hui, Le Dieu des petits riens, Arundhati Roy. Arundhati Roy est née le 24 novembre 1961 à Shillong, dans l'état du Meghalaya, en Inde. Elle est très engagée dans un activisme pacifiste. Le Dieu des petits riens, écrit en 1997, nous livre le monde de l'enfance à travers le portrait de jumeaux, âgés de 8 ans. Ayyemenem en mai est chaud et maussade. Les journées y sont longues et humides. Le fleuve s'étrécit. Les corneilles se gorgent de mangues lustrées dans l'immobilité des arbres vert-olive. Les bananes rouges mûrissent. Les jacques éclatent. Les grosses mouches bleues sont ivres et bourdonnent sans but dans l'air lourd et fruité, pour finir par aller s'assommer contre les vitres transparentes et mourir, pansues et effarées, dans le soleil. Les nuits sont claires, mais baignées de paresse et d'attentes chagrines. Mais dès le début du mois de juin éclate la mousson du sud-ouest, et suivent alors 3 mois de vent et de pluie, entrecoupés de brefs intervalles de soleil, d'une lumière vive, acérée, que les enfants tout excités saisissent au vol pour jouer. La campagne se couvre d'un vert impudique. Les démarcations s'estompent au fur et à mesure que s'enracinent et fleurissent les haies de manioc. Les murs de briques prennent des tons vert mousse. Les vignes vierges montent à l'assaut des poteaux électriques. Les pousses rampantes vrillent la latérite des talus et envahissent les chemins inondés. On circule en barque dans les bazars. Et des petits poissons font leur apparition dans l'eau qui remplit les nids de poules des ponts et chaussées. Il pleuvait, le jour où Raël revint à Ayyemenem. Des cordes argentées frappaient en ces tons la terre meuble, labourée comme sous le feu de la mitraille. La vieille maison sur la colline portait son toit à pignons pentus, enfoncés jusqu'aux yeux. L'humidité qui montait du sol avait fait gonfler les murs spongieux et striés de mousse. Le jardin, revenu à l'état sauvage, bruissait des murmures et des courses d'innombrables petites bêtes. Dans les fourrés, une couleuvre se frottait contre une pierre luisante. De grosses grenouilles jaunes parcouraient la mare boueuse dans l'espoir de trouver l'âme sœur. Une mangouste trempée traversa comme une flèche l'allée jonchée de feuilles. La maison avait l'air vide. Portes et fenêtres fermées. Véranda abandonnée. Aucun meuble nulle part. Mais dedans, Babi Koshama était toujours en vie. Et la Plymouth bleu ciel avec ses ailerons chromés était toujours garée dehors. Babi Koshama était la petite grand-tante de Raël, la sœur cadette de son grand-père. Elle s'appelait en fait Navomi, Navomi Ipé, mais tout le monde l'appelait Baby. Du jour où elle avait été en âge de devenir grand-tante, on l'avait baptisée Babi Koshama. Ce n'était pourtant pas elle que Raël était venue voir. Pas plus la nièce que la petite grand-tante ne vivait d'illusions à ce sujet. C'était pour son frère Esta que Raël était revenue. Ils étaient jumeaux, des faux jumeaux, des dizygotes comme disent les docteurs, nés de deux œufs distincts mais simultanément fertilisés. Esta, Estapen, était l'aînée de 18 minutes. Ils ne s'étaient jamais beaucoup ressemblés tous les deux. Et même du temps où ils n'étaient encore que des enfants maigres comme des allumettes et plats comme des limandes, dévorés par les vers, affublés d'une houppe à la Elvis Presley, pas plus les membres de la famille bardés de sourires que les quêteurs de l'église chrétienne de Syrie, qui venaient souvent à la maison, ne s'étaient livrés aux habituels « C'est lequel celui-là ? La fille ou le garçon ?» C'était à un autre niveau, plus profond, plus secret, que se posait pour eux le problème de l'identité. Au cours de ces premières années informes, où le souvenir commençait à peine, où la vie n'était faite que de débuts et ignorait les fins, où tout était pour toujours, Estapen et Raël se déterminaient, ensemble, en termes de « moi », et séparément ou individuellement, de « nous ». Comme s'ils avaient appartenu à une espèce extraordinaire de jumeaux siamois, physiquement distincts, mais dotés d'une identité commune. Aujourd'hui, bien des années plus tard, Raël se souvient s'être réveillée une nuit, riant aux éclats du rêve que faisait Esta. Elle a d'autres souvenirs aussi, qu'elle n'a aucun droit d'avoir. Elle se souvient, par exemple, sans avoir assisté à la scène, de ce que l'homme orangeade citronnade avait fait à Esta dans le cinéma parlant d'Abilache. Elle se souvient du goût des sandwichs à la tomate, ceux qu'Esta, pas elle, avait mangés, dans le train postal de Madras. Et ce ne sont là que les petits riens. Quoi qu'il en soit, quand elle pense aujourd'hui à Esta et Raël, c'est en termes d'eux. Parce que séparément, ils ne sont plus ce qu'ils étaient, ni ce qu'ils croyaient jamais devenir. Au grand jamais. Leurs vies ont désormais une forme et une dimension propres. Esta en a une et Raël une autre. Arêtes, franges, bordures, frontières, limites sont apparues comme autant de lutins à l'horizon de leur vie spécifique. Petites créatures nanties de longues ombres qui montent la garde aux confins embrumés. De petites poches se sont formées sous leurs yeux. Et ils ont l'âge d'Amou quand elle est morte. 31 ans, ce n'est pas vieux, ni jeune, un âge pour vivre, pour mourir aussi. Ils ont bien failli naître dans un car, Esta et Raël. La voiture dans laquelle Baba, leur père, emmenait Amou, leur mère, accouchée à l'hôpital de Shaïlong, était tombée en panne sur la route en lacet qui traversait la plantation de thé d'Assam. Ils avaient abandonné la voiture et arrêté un car de la compagnie des transports interurbains. Le véhicule était bondé, mais mu par cette étrange compassion qu'éprouvent souvent les plus démunis pour de plus riches qu'eux, ou simplement impressionné par les proportions énormes d'Amou, quelques passagers s'étaient levés pour céder leur place au couple. Et pendant tout le trajet, le père d'Esta et de Raël avait dû tenir à deux mains le ventre d'Amou, avec eux dedans, pour le protéger des chaos. C'était avant qu'ils divorcent et que leur mère revienne vivre au Kerala. À en croire Esta, s'ils étaient nés dans ce car, ils auraient voyagé gratis le restant de leur jour. Personne ne savait au juste d'où ils tenaient pareil renseignement, ni même comment ils étaient au courant de ce genre de choses, mais pendant des années, les jumeaux en voulurent à leurs parents de les avoir ainsi privés d'une vie entière de tickets gratuits dans les transports en commun. Ils croyaient aussi que s'ils se faisaient tuer sur un passage clouté, c'était le gouvernement qui se chargerait de payer leur enterrement. Ils avaient la quasi-certitude que c'était là la seule raison d'être des passages protégés, se faire enterrer à l'œil. Bien sûr, il n'y en avait pas à Ayemenem, pas plus d'ailleurs qu'à Kottayam, la ville la plus proche, mais ils en avaient vu quelques-uns depuis la voiture en allant à Cochin, à 2 heures de route de la maison.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 3 août 2007.